Bonsoir, merci d'être là si nombreux pour cette huitième donc édition des débats du Musée de l'immigration. Ce cycle, vous le savez, il est consacré au thème de l'immigration et aujourd'hui, on a décidé, ce qui d'ailleurs requiert un certain courage intellectuel, de s'intéresser à un débat qui fait rage dans la société française depuis des décennies, qui est la relation complexe, bien sûr, du système scolaire et de l'immigration. Dès qu'on aborde ce thème dans certaines enceintes, vous le savez, les passions se déchaînent et il est malaisé de poser un diagnostic rationnel et dépassionné, comme si très vite les anathèmes, l'explosion des polémiques et les mauvais procès tenaient lieu de diagnostics sur cette relation à la fois étroite, privilégiée et en même temps problématique qui s'est nouée au fil des années entre les enfants de l'immigration et une école de la République qui cherche aujourd'hui à retrouver son centre et peut-être ses valeurs. On va donc passer en revue avec nos invités de ce soir, que je m'en vais vous présenter dans un instant, des problèmes aussi complexes que les dispositifs d'accueil des enfants étrangers, la question de la réussite scolaire des enfants issus de l'immigration, ou dont les parents sont eux-mêmes issus de l'immigration, la place de l'histoire, bien sûr, de l'immigration dans le cursus scolaire, notamment dans les collèges, qui ont fait l'objet de nombreuses recherches, dont on va ici essayer, aux côtés de Benjamin Stora, le président de cet établissement, de vous faire partager les différents enseignements et les différents résultats. Alors pour justement en débattre, pour présenter des points de vue sans doute contrastés et en même temps fondés, nous avons invité Natacha Polony, qui est chroniqueuse au Figaro, éditorialiste à Europe 1 et surtout depuis longtemps spécialiste de ces questions, dont vous avez été d'ailleurs tour à tour spécialiste dans les rédactions de Marianne et du Figaro. Vous êtes aussi l'auteur d'un essai, engagé sur le patriotisme républicain qui s'intitule « Nous sommes la France », paru très récemment aux éditions Plon. Et nous allons en débattre donc avec Laurence Decoq. Vous êtes professeur d'histoire-géographie à Paris. Vous enseignez également la didactique de l'histoire à l'Université Paris-Diderot. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui porte spécifiquement sur les questions d'enseignement de l'histoire, « La fabrique scolaire de l'histoire », qui sera d'ailleurs un des aspects que nous allons aborder dans un instant. J'en profite aussi pour dire, bien sûr, que Benjamin Stora, sous la présidence duquel se déroule ce cycle, est l'auteur d'un livre qui, lui, a, par certains côtés, partie liée avec notre thème de ce soir, qui s'appelle « Les mémoires dangereuses », coécrit avec Alexis Gély aux éditions Albin Michel. Mais alors, tout de suite, pour commencer, je me proposais de citer un auteur qui l'est souvent, d'ailleurs, dans les débats sur l'éducation, un auteur étranger, qui peut-être vous mettra d'accord, on va voir, qui était la philosophe Hannah Arendt, allemande bien sûr de naissance, américaine ensuite dans le développement ultérieur de sa carrière. Et elle disait, dans la crise de l'éducation, qui est restée souvent citée justement dans le débat pédagogique français, que l'école a pour vocation première d'assurer, disait-elle, la continuité du monde en faisant entrer les générations nouvelles dans un monde qui leur préexiste. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mission philosophique de l'école devrait être rappelée comme préalable à toute réflexion sur son éventuelle réforme, Natacha Polony?
Merci. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici. Merci, Alexis, pour cette introduction, puisqu'en effet, je pense que cette question du rôle de l'école dans l'accueil des nouvelles générations est absolument crucial justement pour traiter ce débat. Ce débat qui est intitulé « École et immigration, fantasmes et réalités ». Alors, le titre en lui-même est assez intéressant puisqu'il nécessiterait normalement de définir de quel fantasme on parle, qui les produit, dans quel but, ce qui est à l'œuvre. Mais finalement, il me semble d'abord intéressant de parler des réalités. Et les réalités, elles sont avant tout factuelles, précises. On les trouve notamment à travers les données de l'enquête PISA, à savoir le niveau excessivement mauvais des élèves français de 15 ans, notamment dans la maîtrise de leur langue. Et tout cela reproduit, nous dit cette enquête, reproduit et amplifie les inégalités sociales, à savoir que aujourd'hui en France, et je pense que c'est assez scandaleux pour quiconque envisage cela, un enfant de milieu défavorisé a beaucoup plus de chances d'échouer, enfin beaucoup plus de risques d'échouer. Il est voué à échouer à l'école. Ce déterminisme social est lié au sujet qui nous occupe dans la mesure où, évidemment, des populations qui arrivent dans un pays, des populations immigrées, sont souvent dans les couches sociales les plus défavorisées et donc se retrouvent condamnées à l'échec. Et la preuve en est que une autre donnée de cette enquête PISA nous démontre que non seulement la France échoue à faire réussir les élèves de milieux défavorisés, mais elle échoue aussi à faire réussir les enfants d'immigrés, ce qu'on appelle la deuxième génération. Nous sommes particulièrement mauvais par rapport aux autres pays de l'OCDE sur ces questions-là. Ce qui est, je le disais, un scandale absolument inacceptable et qui nécessite de s'interroger sur les causes de cela. Alors, évidemment, nous allons sans doute en débattre, aborder cette question. Il y a des questions d'organisation de l'école, de méthode d'enseignement, de tout cela. Et c'est de tout cela qu'il faudrait débattre pour essayer de lutter contre ce qu'il y a de plus insupportable et qui est ce déterminisme absolu. Mais avant d'entrer dans ce qui relève donc de la dimension presque technique du débat, il me semble que, à travers ce diptyque école et immigration, on perçoit immédiatement que le problème est plus vaste, que ce n'est pas seulement la question de la réussite scolaire et des moyens de l'assurer. En fait, il est nécessaire, et c'est pour ça que ton introduction, Alexis, posait tout à fait les termes du débat, il est nécessaire de s'interroger sur le rôle même de l'école, en introduisant, me semble-t-il, non plus un diptyque, mais un triptyque. École, intégration, immigration. Et au-dessus de cela, la question de la nation. Alors, pourquoi la question de la nation? Je pense que, bon, on peut parfaitement estimer aujourd'hui que les nations sont des entités dépassées, que le monde moderne doit s'ouvrir à d'autres éléments. Il me semble, pour ma part, que pour l'instant, l'État-nation est le seul lieu d'exercice de la démocratie. En cela, il est absolument nécessaire de s'interroger sur la façon dont cette nation peut se perpétuer. Et l'école en est un élément, parce que l'école n'est pas seulement un service public d'éducation, c'est une institution de la nation, et en particulier dans le cadre d'une nation comme la France, qui n'est ni ethnique ni linguistique, qui, je reprendrai pour cela la définition d'Ernest Renan, la nation française est en fait éminemment politique. Elle s'appuie sur cette idée qu'il définissait, à savoir qu'elle relève d'un plébiscite de tous les jours, mais ce plébiscite, pour pouvoir se mettre en œuvre, doit s'appuyer sur un legs de souvenirs. Et c'est là qu'entre en jeu l'école. Pourquoi ? Parce que si des enfants n'ont pas dans leur famille accès aux récits, aux habitus, aux mythes qui permettent justement de s'approprier ce legs de souvenirs, l'école est le seul lieu où ils peuvent l'acquérir. C'est le seul lieu qui va les intégrer à la nation, qui va leur permettre, à égalité avec ceux qui sont déjà là, de devenir pleinement français, de se sentir pleinement français, parce que nous comprenons bien que tout cela ne relève pas seulement d'une question administrative. Bien sûr qu'être français, c'est être citoyen de la République française. C'était la phrase de Robespierre et elle est fondamentale. Mais ce n'est pas seulement une question administrative, ce n'est pas seulement une question de papier. Le processus d'intégration est absolument fondamental et il s'appuie sur l'école. Et il s'appuie sur une école qui, justement, doit garder ce rôle que lui a signé Hannah Arendt, à savoir ce double objet dont elle parlait, l'enfant et le monde. Le rôle de l'école est de socialiser et de conserver le monde. Le processus, en fait, d'intégration est au cœur de cette façon de transmettre le monde aux générations nouvelles. Et c'est pour ça que quand, pour ma part, je parle d'intégration, je ne parle pas seulement d'intégration des enfants venus d'ailleurs, des immigrés, des enfants d'immigrés, absolument pas. L'intégration est un processus qui concerne tout enfant, toute nouvelle génération qui entre dans une société et à qui les générations précédentes doivent transmettre le monde. Et c'est cela le rôle de l'école. Mais je le disais, c'est beaucoup plus crucial pour ceux qui n'auront pas dans leur famille l'aide et les codes qui leur permettront de faciliter les choses. C'est pour ça que il me semble que... Alors, évidemment, tous ces problèmes-là, on peut évidemment contester cette conception-là, bien entendu. On peut me faire valoir que tout cela, enfin que, en gros, la conception de la nation d'Ernest Renan n'a plus cours dans un monde globalisé. Je crois, au contraire, que c'est une façon de concevoir l'organisation sociale qui est sans doute la plus égalitaire et la plus apte à préserver une très haute conception de l'être humain. Et c'est en cela que je pense qu'il faut absolument que nous réfléchissions collectivement à la façon de remettre tout cela en œuvre. Et quand je dis remettre tout cela en œuvre, c'est parce qu'il me semble que ce processus d'intégration a été abîmé. Il a été abîmé pourquoi ? Parce que on a voulu nettoyer l'école de ce vieux roman national totalement caricatural et qui servait en grande partie à endoctriner les futurs citoyens. Sauf que qu'on veuille remplacer le roman national par des éléments historiques un petit peu plus proches des vérités me semble nécessaire. Pour autant, ça n'invalide pas l'idée qu'il faille, à travers l'histoire notamment, mais aussi à travers la littérature, garder cette conception de l'école comme creuset de la nation. Surtout, je le disais, dans une nation ancienne comme la France, qui s'appuie sur cette mémoire historique, qui est profondément liée à une littérature. Ce n'est pas un hasard si la devise française « Liberté, égalité, fraternité », la devise de la République française, est en fait constituée de notions philosophiques qu'on pourrait considérer comme profondément vagues. Pourquoi ? Nous les partageons parce que nous avons en mémoire tous les textes qui ont permis d'expliciter ces notions, qui petit à petit les ont travaillées pour construire notre vision de la République. Je crois que nous voyons aujourd'hui ce que signifie la désagrégation d'une nation, c'est-à-dire la destruction de la possibilité pour des individus de dépasser leur simple individualité et de se construire un destin commun. Il est extrêmement frappant d'ailleurs de voir que dans ce processus que nous vivons aujourd'hui, on ressurgit des mots que nous pensions effacer, comme l'antisémitisme par exemple. Je crois que tout ce qui travaille, notamment l'école, mais l'ensemble de la société aujourd'hui, tourne autour de cette question de savoir comment nous allons pouvoir vivre ensemble malgré notre diversité. Et cela ne peut se faire qu'à travers ce processus d'intégration lié à l'école. Nous reviendrons là-dessus.
Merci beaucoup en tout cas pour ces premières analyses, Natacha Polony. On va évidemment revenir sur certains points de votre exposé. En gros, donc, Natacha Polony pose un diagnostic sur ce qu'on peut appeler tout simplement les dysfonctionnements de l'école, en prenant une grille, disons, de lecture qui est quand même philosophique, qui rappelle que dans la tradition républicaine, l'école, elle a d'abord pour mission de former un citoyen, en l'intégrant à un monde qui lui préexiste. Elle a employé même le terme d'habitus. Est-ce que, pour commencer, les préalables en quelque sorte au débat, vous la rejoignez sur cette définition-là de l'enceinte scolaire et de sa mission?
Alors moi, je rejoins tout à fait sur le diagnostic des défaillances de l'école et de la capacité de l'école à reproduire les inégalités sociales et à ne pas savoir remédier au déterminisme social. On le dit depuis 50 ans et c'était même aussi valable avant, sauf qu'entre-temps, l'école s'est massifiée, donc ça a évidemment accentué considérablement le problème. Mais je vais quitter la casquette philosophique pour aborder plutôt la casquette historique.
C'est très bien, la multiplicité des casquettes enrichira le débat.
Et peut-être mettre un petit peu de rugosité en fait dans tout ce qui vient d'être dit, parce que la philosophie a cet art de la généralisation, et puis l'histoire a aussi parfois la vertu de replacer les choses sous un angle un petit peu plus long et parfois aussi de les dédramatiser. Je vais partir du titre de votre livre que je n'ai pas lu, mais « Nous sommes la France ». C'est une façon rhétorique simplement de commencer mon exposé en disant que dans l'histoire, ce qui pose le plus question, c'est pas le mot France, c'est le nous. C'est le nous dans lequel il y a évidemment de très nombreuses rugosités, et c'est sur ce nous qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'enceinte de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, et qu'il est bien question de savoir si les gens dont nous parlons, vous avez parlé de seconde génération, on en est bien au-delà de la seconde génération aujourd'hui, hein, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne souhaitent pas se revendiquer de ce nous?
Et si on fait ce constat, quel nous, l'école refondue ou refondée?
Ne vous inquiétez pas, je vais faire mon petit exposé tranquillou, je réclame le même temps.
Pourrait-elle contribuer à faire éclore? Parce qu'il faut d'abord, aussi être positif.
D'abord, historiquement, cette question des vertus de l'école de la République à conjuguer les différences, elle s'est posée dès la création de l'école de la République. On n'était certes pas dans un contexte d'immigration coloniale ou postcoloniale, mais on était dans un contexte de construction nationale à la fin du XIXe siècle. Et croyez-moi, être breton-alsacien en 1881, c'était une forme d'étrangeté aussi absolue que l'immigré et le migrant qui arrive aujourd'hui en France et qui ne maîtrise aucun code et aucune langue. Donc on était bien déjà dans cette dialectique-là, qui était une dialectique liée à l'intégration, hein, qui était comment est-ce qu'on fabrique du commun à partir de différences. Les réponses qui ont été apportées au XIXe siècle par l'école de la République sont des réponses qui, contrairement aux apparences, ont été extrêmement pragmatiques. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un discours sur l'école qui consiste à dire que l'école est indifférente aux différences et donc il ne faut surtout pas considérer des identités régionales, etc. Et en même temps, tous les travaux historiques, depuis longtemps, hein, depuis plus de 20 ans, on le sait, tous les travaux historiques ont montré qu'un enseignant qui arrive dans une classe avec des élèves qui parlent breton, il ne va pas tout de suite leur raconter l'histoire de Jeanne d'Arc. Il va s'adapter à qui ils sont, et puis il va commencer déjà de la question d'identité régionale bretonne, etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a toujours eu dans l'école de la République des aménagements qui sont des formes d'accommodement pragmatique. Hein. Les gens qui sont profs dans la salle savent particulièrement bien qu'on ne peut pas arriver avec un discours prescriptif sur l'identité des élèves. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pédagogiquement, ça ne prend pas. On ne peut pas dire à des élèves « vous êtes ça ». On dit « nous allons travailler ensemble à construire quelque chose de commun ». En revanche, en effet, au début des années 80, le « nous » commence à se rouiller considérablement. Et il commence à se rouiller avec une génération d'enfants de migrants en pleine crise économique, en pleine montée du Front National, des enfants qui viennent non pas de Belgique, de Pologne, d'Italie ou d'Espagne, mais qui viennent des anciennes colonies, et notamment qui viennent d'Algérie, je pense que Benjamin Stora en parlera aussi, et des enfants qui réclament une forme de reconnaissance. Pas une reconnaissance religieuse, pas une reconnaissance culturelle, mais une reconnaissance justement de leur appartenance à cette France. Voilà. Et une reconnaissance qu'ils n'ont pas parce qu'ils sont relégués dans des quartiers qui sont des quartiers dans lesquels la violence est extrêmement forte, dans lesquels le racisme est extrêmement lourd, etc. Et vous savez très bien que ce sont le début des années 80, c'est la marche pour l'égalité contre le racisme, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça interpelle considérablement l'institution. Parce que jusque-là, l'institution scolaire, par rapport à ses enfants de migrants ou ses enfants d'immigrés, avait effectivement une réponse qui était de les accompagner vers leur retour. C'est la fameuse scolarisation des enfants de migrants. Donc jusqu'à la fin des années 70, La seule question que posait le migrant à l'école, c'était comment est-ce qu'on va accompagner en douceur leur retour. C'est la fameuse mise en place des ELCO, des accueils des primo-arrivants. Et comment est-ce qu'on les accompagne? Eh bien, on les accompagne en leur enseignant leur culture d'origine, leur langue d'origine. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'ils ne vont pas repartir. C'est des enfants qui sont dans les classes et ils vont y rester, ils sont destinés à y rester. Et donc, cette idée d'enseigner les langues d'origine ou la culture d'origine, ça n'a strictement aucun sens, puisque c'est au contraire fabriquer de la différence, là où au contraire, il faudrait inventer du commun. Et c'est à ce moment-là que l'école se met en branle véritablement autour de la question de l'immigration. Alors là, je vous le garantis, dans les archives, on le voit parfaitement bien. Il y a désormais des dossiers à partir des années 80 qui sont intitulés « Enfants de l'immigration ». Il y a des rapports qui sont commandés à des universitaires autour de la question de l'école et de l'immigration. Donc ça devient primordial. Et à ce moment-là, au milieu des années 80, il y a une scission en effet qui se fait. Qui est une scission qui est exactement celle que vous avez en face de vous, en réalité, avec Natacha Polony et moi. Cette scission...
Une scission chez les experts, vous voulez dire?
Non, une scission qui est vraiment une scission idéologique et philosophique. La première, c'est celle que vous incarnez, et qui, encore une fois, n'a rien à voir avec la droite ou la gauche, hein, dépassons ça, mais qui a à voir avec le rapport à la République et le rapport à l'universel républicain. La première réponse qui est apportée d'ailleurs par la gauche, hein, parce que c'est une réponse chevènementiste, est de dire la République a toujours su, par justement l'intégration, a toujours su intégrer parce qu'elle est restée indifférente aux différences. Et le danger serait justement de surestimer ces différences, puisque ce serait fabriquer du fractionnement et ce serait mettre de l'identitaire là où on n'accepte que de la citoyenneté. Ça, c'est la version universelle républicain, foi absolue dans les vertus intégratrices de la République, et notamment du roman national. Je termine simplement. Et puis en face, il y a d'autres personnes qui, elles, considèrent que la reconnaissance des différences n'entrave pas le phénomène d'intégration. Et que, y compris si on passe par des procédés de programmes scolaires qui vont laisser place à l'histoire de ces enfants, à l'histoire de leurs parents, à l'histoire de leur arrivée, c'est-à-dire si on passe par des processus de reconnaissance, y compris de reconnaissance politique et culturelle de ces enfants-là, ça n'empêchera pas de fabriquer du commun, parce que le commun jaillira de cette combinaison des différences et non pas de leur négation.
Alors avant que Benjamin, non pas vous réconcilie, mais peut-être en sage, propose une position de dépassement avant qu'on entre dans le détail d'autres oppositions. Sur cet historique, est-ce que vous acceptez, Laurence de Kock, de rajouter tout de même, puisque vous décrivez ce moment intéressant où au sein du cabinet de Jean-Pierre Chevènement en 1985, plusieurs personnes, Philippe Barret, Jean-Claude Milner, amènent le logiciel républicain. Est-ce que vous acceptez, c'est vrai, de reconnaître que, aussi critiquable que soit éventuellement rétrospectivement cette position, il y avait en face une apologie débridée du droit à la différence qui a quand même posé un problème et qui a sans doute affaibli la revendication, par ailleurs légitime, de reconnaissance d'une spécificité des enfants de l'immigration?
C'est pas vraiment une apologie débridée, mais c'était une croyance, une autre forme de croyance. La pédagogie tâtonne, hein, et on n'a pas la réponse. Oui. Donc effectivement, c'était une autre forme de croyance dans les vertus de ce qu'on appelait à l'époque la pédagogie interculturelle, ce que Chevènement appelait la pédagogie couscous. La pédagogie interculturelle, c'était de dire en effet, on va accueillir toutes les familles, il y en a une qui va amener du couscous, il y en a une qui va amener de la paella, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était effectivement une façon sans doute un peu caricaturale de n'être, et encore une fois, avec toute la générosité des enseignants, de n'être que dans la reconnaissance culturelle, au détriment en effet d'une réflexion sur ce qui pouvait transcender ces différences, et notamment d'une réflexion politique. Voilà. Mais il faut savoir juste une chose, c'est qu'au cabinet de Chevènement, c'était pas du tout consensuel, cette histoire d'universel républicain. Là, ce qui a été décidé, les programmes qui ont été décidés en 85, qui sont des programmes d'ailleurs dont nous sommes le fruit, vous et moi, pour vous dire aussi que ça produit des gens parfois assez différents. Les programmes de 1985, c'est un arbitrage, mais qui est dû à de très très longs débats en amont, y compris Chevènement, on le voit bien à un moment dans les archives, c'est Jacques Berck que vous connaissez parfaitement bien. Voilà. À un moment donné, Jacques Berck et Chevènement, ils sont très copains. Hein, et à un moment donné, Chevènement, il est tenté par le rapport Berck. Hein, finalement, il termine dans les tiroirs, mais il a failli le prendre. Et le rapport Berck, c'était un rapport qui disait il faut enseigner l'émigration, il faut enseigner en réalité que la constitution de la population française est toujours faite par les apports d'immigration successive. Voilà. Il faut rendre évidente le fait qu'il y ait des cultures différentes au sein d'un même pays.
Alors comment vous entendez ces premières réflexions, Benjamin Stora ? Vous qui êtes, bien sûr, on le rappelle, hein, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici, mais peut-être parmi les vidéastes, un historien de l'immigration, et notamment de l'immigration nord-africaine, ça a été rappelé tout à l'heure par Laurence.
Oui, alors moi, loin de moi l'idée de vouloir réconcilier aujourd'hui ces débats, j'allais quasiment dire historiques, classiques, sur républicanisme outrancier contre différentialisme débridé.
C'est interminable bataille d'Hernanie française.
Je crois pas que ça se pose dans ces termes. D'ailleurs, ça me paraît un peu radical, même dans les deux discours que je viens d'entendre. Moi, simplement, ce que je voudrais, c'est essayer de poser un certain nombre de questions qui, moi, m'intéressent. Donc, je ne sais pas si ça correspond à ce type de clivage. La première question qui m'intéresse, c'est le fait qu'on demande à l'école des choses qu'elle ne peut pas réaliser, c'est-à-dire de comprendre que l'immigration doit être instantanément intégrée par l'école. Ça, c'est pas possible, parce que le temps de l'intégration des immigrés est très long. Les travaux d'Abdelmalek Sayad, qui parle de trois âges de l'immigration, il parlait de l'immigration algérienne dans la fin des années 70, c'est très long, parce qu'il y a le temps du travail, il y a le temps de la langue, il y a le temps de l'instruction, il y a le temps de la, comment dirais-je, de la dispersion dans la société, et puis il y a le temps de la reconnaissance, et puis il y a le temps de la mémoire, de la retrouvaille, des retrouvailles, avec sa propre filiation et sa généalogie. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et lorsqu'on parle des trois âges de l'immigration, qui est maintenant considéré que, dans le fond comme un raisonnement classique hein, par les sociologues et les historiens, ça prend 30 ans, quoi. Je veux dire, pour que quelqu'un puisse véritablement se sentir français, vivre à l'intérieur d'une société. Or, ce qu'on exige de l'école, c'est précisément l'immédiateté dans la façon de se sentir français. Alors, comme si c'était possible.
À ce stade, avant que vous continuiez, je vous interromps, parce que au fond, il y a deux discours. Ce ne sont pas d'ailleurs les discours que nous tiennent et Laurence et Natacha, hein, mais il y a deux discours dominants, au fond, sur cette relation fondamentale de l'école avec la fabrique de Français, de jeunes Français. Hein. Ouais. Il y a le discours qui explique qu'aujourd'hui, cette fabrication spirituelle ne peut plus avoir lieu et n'aura plus jamais lieu. C'est un discours répandu et ça recoupe en partie la frontière droite-gauche, mais pas seulement. Et il y a un discours éventuellement euphorique qui s'appuie sur des statistiques en montrant qu'au fond, dans le temps long, malgré les crises très profondes qu'elle traverse, l'école de la République continue qu'à un quart à construire des Français, j'allais dire comme les autres. Est-ce que ces deux discours sont l'un et l'autre faux, ou est-ce qu'ils recoupent chacun une part de vérité ?
Non, ils recoupent une part de vérité. Je ne dis pas que je suis l'homme de la synthèse ce soir, évidemment. Mais je crois qu'effectivement, l'école, il faut qu'elle donne une impulsion républicaine. Mais de là à considérer que c'est l'école entièrement qui va fabriquer le citoyen, c'est pas possible. Le citoyen, il se fabrique par beaucoup d'autres moyens, instruments, outils, codes, je ne vais pas tous les décrire ici, etc. En d'autres termes, l'école ne peut pas se substituer à tous les apprentissages nécessaires pour la citoyenneté, dont notamment l'engagement politique, qui me paraît central et décisif. Or, on assiste sous nos yeux à l'effondrement du politique, et l'école ne peut pas se substituer et servir de réceptacle à tous les effondrements qui peuvent exister dans la société d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai problème de la société, et dans le fond, les enseignants aujourd'hui portent sur leurs épaules ces reflux idéologiques, ces crises hein, qui existent en termes d'individualisme, enfin, on ne va pas tout décrire, hein, de montée des communautarismes, de religieux, de tous ces aspects-là, et l'école ne peut pas répondre à toutes ces questions-là. C'est pas possible. Il y a d'autres façons d'eux. Mais l'école peut, à mon sens, fournir une impulsion, c'est-à-dire donner les bases nécessaires, notamment ce qu'on appelle l'école primaire, ça commence par là, hein, fondamentalement, ça passe par là. Là, l'école, oui, peut donner cette impulsion décisive, nécessaire, indispensable. Ça, c'est la première question. Et à mon sens, le problème du rapport au temps et le rôle qu'on veut faire jouer à l'école me paraît totalement disproportionné.
Et ces 30 dernières années, vous êtes de ceux qui déploraient qu'on n'ait pas mis assez l'accent sur le commun, ou vous pensez qu'au contraire, on n'a pas suffisamment représenté, respecté, reconnu et mis en lumière les différences?
Ben, c'est ce que disait à l'instant Laurent Soukos. Il y a eu effectivement des illusions, disons, sur le différentialisme, sur l'apport des cultures d'origine. Et en même temps, elle le rappelait à l'instant, il y a eu Jacques Berck, je veux dire, au cabinet de chevalement, que j'ai connu, puisqu'il était membre de mon jury de thèse, je le connais personnellement, très sensible à l'histoire du monde arabe, et donc à toutes ces questions. C'est un républicain, Jacques Berck. Hein. Donc, partisan d'un islam républicain aussi, donc c'est très important.
Il aurait eu du mal sinon chez Chevènement. Hein.
Si où
il aurait eu du mal sinon chez Chevènement, s'il n'était pas du tout républicain.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais il avait cette volonté de vouloir, respecter quelque part une histoire qui n'était pas celle d'une histoire classiquement européenne et française. C'était évident qu'on devait partir, on devait prendre en compte d'autres histoires parce que la France avait changé. C'était donc à partir de là, dans la mesure où l'histoire, où la France comme société avait changé, alors soit on sombrait dans l'acceptation du discours des autres, du récit national des autres, soit on essayait effectivement d'irriguer le récit national républicain français. C'était ça le grand problème. Hein. C'était, dans le fond, les discussions que de l'époque avec Jacques Berck, etc., dans le fond, sa volonté, c'était une sorte de croisement des récits. C'est-à-dire qu'il fallait partir ou croiser les récits pour les irriguer. C'était ça sa volonté. C'est-à-dire d'essayer de prendre en compte l'histoire des autres pour faire en sorte que tout le monde conflue vers ce récit républicain. C'est ce qu'on essaye de faire ici, d'ailleurs, hein, au Musée de l'Histoire des Migrations. C'est-à-dire de prendre en compte les histoires des autres pour les faire confluer. Le problème de la confluence des récits pour arriver à un récit qui permette à la fois de partir des autres, etc. Donc ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion que j'ai sur ce problème du rapport entre école et immigration, c'est qu'il y a incontestablement un problème de défiance ou de distance récente depuis une vingtaine d'années, ce qui est incontestable, entre l'environnement extérieur, les familles et l'école, et les maîtres d'école. C'est vrai. On ne peut pas nier cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a des contre-discours historiques qui sont produits, qui produisent des fantasmes hein, et contre lesquels les enseignants ont bien du mal à résister.
Là, vous évoquez
les problèmes d'histoire coloniale, l'histoire de l'Algérie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Oui, puis vous évoquez
c'est terrible. Quoi.
Tout ce qu'ont montré les auteurs des territoires perdus de la République, notamment dès 2002.
Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a effectivement un problème. Or, moi, le problème que j'ai, c'est que les enseignants ne sont pas suffisamment armés pour répondre à ce type de questionnement, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire des autres. Moi, mon problème, il est là. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien de l'histoire de l'Afrique du Nord. Ils ne savent rien de l'histoire... je ne vais pas ici faire la publicité pour le travail que j'ai pu faire avec Abdelwahab Medeb, mais ils ne savent rien de l'histoire des relations entre juifs et musulmans. Je veux dire, à partir de ce moment-là, les musulmans peuvent insulter les juifs peuvent insulter les musulmans, mais dans le fond, l'enseignant qui est au milieu et qui n'a jamais été formé pour ça, que voulez-vous qu'il réponde? Il ne peut rien dire. Il n'est pas formé pour ça. Donc on a un problème... À mon avis, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je vous parle des choses qui m'intéressent. On a un problème de formation des maîtres sur l'histoire, dans l'histoire des autres, ce qu'on pourrait appeler une sorte... Il faudrait agrandir l'histoire et non pas la rétrécir. Donc, un problème d'agrandissement de l'histoire. Or, cette question de l'agrandissement de l'histoire est cruelle aujourd'hui parce qu'on ne peut plus répondre au questionnement des populations scolaires nouvelles. On n'arrive pas à y répondre. Et ça, c'est très dangereux. Hein, c'est quelque chose qui me paraît très grave. Alors, mettons en troisième question, pourquoi cette distance? C'est ça le problème. Pourquoi cette défiance et cette distance? C'est en grande partie parce qu'effectivement, moi je dis les choses comme elles sont, c'est qu'on a effectivement des histoires qui sont profondément différentes dans les immigrations. C'est vrai. Je veux dire que les immigrations européennes, regardez la France comme la patrie des droits de l'homme, les immigrations coloniales, postcoloniales ne regardent pas la France de cette manière-là parce qu'elles considèrent effectivement qu'il y a eu subordination, exploitation, colonisation, enfin bref, il y a un rapport de défiance à la société française reçue en héritage de ce qu'a été effectivement cette histoire coloniale ancienne. Je veux dire, il faut le dire tel quel, parce que si on le dit pas, dans le fond, on est dans les non-dits, dans les je sais pas quoi. Donc on peut pas considérer que les gens qui viennent d'ailleurs ont tous la même histoire, ont tous le même rapport, disons, à la France. Non, ils n'ont pas tous le même rapport à la France.
Alors, je vous pose très brutalement la question, mais on est dans un lieu qui est un laboratoire politique et culturelle, hein, justement pour reconstruire, pour réparer ce qui doit l'être, si on appliquait les méthodes épistémologiques du musée à l'ensemble du système scolaire français, on se donnerait une chance concrète, sérieuse, dans les années qui viennent, de reconquérir les fameux territoires perdus de la République ?
Moi, je ne sais pas s'il faut ça. Simplement, il faut poser un diagnostic, il faut poser des questions, à mon sens, qui sont, bon, enfin, en tout cas, qui m'intéressent. Ce sont ces questions-là, c'est-à-dire le rapport différent qu'on a à la France, bon, qui n'est voilà, pas le même. Il n'y a pas d'admiration inconditionnelle à la France, telle que, par exemple, pouvaient l'avoir les Juifs d'Europe centrale dans les années 30 et les immigrations postcoloniales des années 70. Ce n'est pas vrai. Je veux dire qu'il y a un rapport qui est différent, parce que l'histoire est différente.
Qui est souvent plus antagonique, en tout cas moins confiant.
Bien sûr.
Hein, voilà.
Donc, mais d'où vient ça ? Donc il faut le savoir, il faut le connaître, il faut l'étudier, il faut l'apprendre. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre cette histoire. Donc si on ne donne pas l'effort d'apprendre cette histoire différente, bon, on n'est pas armé. Or, vous savez combien il y a, je l'ai déjà dit mille fois, mais combien il y a de professeurs d'histoire dans les universités qui sont professeurs des universités connaissant l'histoire du Maghreb contemporain ? Le chiffre est connu, 5. 5 professeurs en France, bon, des universités. Donc à partir de là, comment voulez-vous faire en sorte que la formation des maîtres soit élargie, qu'il y ait une connaissance des acteurs de cette histoire, des programmes, des préjugés, du racisme qui peut exister, etc. On ne peut pas, puisqu'on est dans une situation ou presque, disons, d'infirmité idéologique par rapport à ces histoires différentes. Donc mais c'est ça mon problème, moi. C'est-à-dire que c'est comment faire pour renforcer quelque part l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui. C'est ça mon problème.
Et alors, puisqu'on a la chance d'avoir deux professeurs qui sont aussi des citoyens engagés, mais qui connaissent en particulier les problèmes relatifs à l'enseignement de l'histoire et de la géographie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait améliorer tout de suite, très rapidement, qui serait les contenus de l'enseignement sur l'histoire de l'immigration ?
C'est-à-dire raconter
aussi les réussites de l'histoire de l'immigration.
Absolument. Et je vous donne un exemple que je cite assez souvent. Un exemple qui est très très simple. Vous savez, on est en 2016. Il y a 60 ans, c'était l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. 60e anniversaire, cette année, en 2016. Parmi les personnages qui ont combattu la France et pour l'indépendance de leur pays, de la Tunisie et du Maroc, et il y a beaucoup d'enfants issus des immigrations tunisiennes et marocaines qui vivent en France, hein, il y a des personnages comme par exemple Habib Bourguiba, qui est un républicain. Bon, à partir de là, est-ce que on n'aurait pas eu intérêt, c'est fini maintenant, là, c'est trop tard, est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt à faire connaître les personnages républicains, Bourguiba, Ferhat Messaliach, Ferhat Abbas, de tous ces personnages qui ont été effectivement à la fois des nationalistes, des indépendantistes, bon, on dirait des souverainistes aujourd'hui, mais en même temps des républicains universalistes, c'est-à-dire des gens qui voulaient ces indépendances, non pas pour s'enfermer dans une nation, mais au titre de la liberté universelle. Quand on connaît l'histoire de ces personnages, je ne veux pas tous les citer dans l'histoire algérienne, des personnages comme Aban Ramdan, etc. Bien. Or, on ne sait rien de ces histoires.
Il y a même des auteurs qui disent qu'ils étaient des cryptos,
des
ancêtres des islamistes. Ouais.
Voilà, c'est ça. Aussi Naït Ahmed, Krim Belkacem, Aban Ramdan, etc. C'est inouï. On est arrivé à un point de méconnaissance historique terrible sur ces histoires-là, qui fait que dans cette méconnaissance viennent s'engouffrer les fantasmes intégristes, religieux, tout ce que vous voudrez, etc. Donc, je prends cet exemple de 2016, de l'anniversaire, c'est qu'on aurait eu intérêt, effectivement, à valoriser ce type de parcours, de trajectoire, de personnages pour la télévision, pour l'enseignement, pour les cours d'éducation, etc. Or, on ne l'a pas fait, parce que ce n'est pas notre préoccupation, qu'on n'a pas cette préoccupation.
Moi, dans mon rôle, qui est un rôle amusant, mais ingrat aussi, d'animateur, ouais. Je fais toujours une sorte de réduction, comme ça, idéologique des propos, pour résumer. Au fond, il y aurait deux choix possibles, hein, pour enseigner la République et pour reconstruire une école de la République. Ce serait le choix, disons, d'une France un peu repliée sur elle-même, d'une France étroite, comme on dit en ce moment, qui n'agrandirait pas ou qui n'ouvrirait pas son récit national à d'autres récits, à d'autres expériences. Et sur la base du républicanisme et d'un républicanisme rénové, ce que vous proposez, c'est-à-dire une confluence ou une mise en confluence ou une mise en dialectique de mémoires différentes refonder un nouveau récit national.
Oui, enfin, moi, on ne peut pas être exclusivement, enfin, je terminerai là-dessus, parce que dans une sorte d'histoire nationale auto-centrée. Voilà, c'est clair, si on est auto-centré en permanence sur notre histoire nationale, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'on soit dans notre histoire nationale aussi en tenant compte de l'histoire républicaine des autres.
Alors,
c'est-à-dire l'histoire universaliste des
autres.
Et si on n'a pas cette volonté à diffuser ces histoires différentes à prétention, à volonté, à vocation universaliste, on va avoir des problèmes de surgissement de, comment dirais-je, porté par des mouvements, eux, universalistes, mais à base d'intégrisme religieux, c'est-à-dire transnational. Et là, c'est la catastrophe.
Et alors, c'est, tout ça, évidemment, est sur le papier très, très louable.
Très facile.
Non, très louable, mais est-ce qu'on prend ce chemin en dehors de cet établissement que vous présidez? Est-ce qu'on prend ce chemin globalement pas, dans la société française?
Non, je ne crois pas, parce qu'on n'a pas de forme, on n'a pas de création de poste. Vous savez, vous parliez tout à l'heure de Jean-Pierre Chevènement, Jacques Berck, etc. Mais Jacques Berck voulait créer un institut à Strasbourg. Arcoun avait essayé de reprendre cette idée après. Ça n'a jamais vu le jour. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de création par le haut, par l'État, hein, je veux dire, de formation des maîtres, de professeurs, d'enseignants, connaissant la langue arabe, la littérature, la poésie, etc., qui permettrait de former, pas simplement des imams, parce qu'on dit toujours les imams, mais ce n'est pas une question d'imam, ce n'est pas une question de religion. C'est un problème, disons, de culture universelle, portée par une ère culturelle différente. Or, on n'a pas cette volonté-là, politique, on n'a pas de publication. Par exemple, quand j'ai dit ça un jour à des députés à l'Assemblée nationale, ils m'ont dit, mais alors si on vous écoute bien, M. Stora, il faudrait publier 50 postes de professeurs d'université du Maghreb. J'ai dit, ben oui, il faudrait effectivement qu'il y ait 50 postes ou 100 postes de professeurs d'université qui soient mis au concours, et puis des gens seraient recrutés sur la base de la connaissance de la langue arabe, de la poésie, de la culture, de la philosophie, et à partir de là, vous auriez, à partir de l'université, eh bien, une diffusion de savoir qui serait dans les lycées, ensuite descendant dans les collèges, etc. Or là, on n'en prend pas du tout le chemin. Au lieu de ça, on a des discours philosophiques, républicanisme, assimilation, différentialisme, etc. Et on perd un temps fou. Voilà ma position, elle est très pragmatique.
Vous voulez me faire regretter d'avoir cité Anna Arendt, mais j'assume. Non. Bon. Et alors, Natacha, justement, vous l'entendez, hein, Benjamin Stora, il nous propose cet agrandissement, cet élargissement du récit national. Vous dites au fond comme lui, là, vous êtes convaincu, agrandir ou mourir?
Disons que je crois que pour pouvoir agrandir, il faut partir d'un point, il faut avoir une base. Il me semble que dans ces domaines-là, il faut absolument se préserver de toute caricature, de tout excès et entrer dans les nuances. Parce qu'en fait, ce qui se joue dans les classes relève à la fois d'idéologies qui travaillent chez chaque individu, qui vont ensuite se sentir dans chaque parole d'un professeur, dans chacun de ses gestes, dans la façon d'exercer son métier. Et en fait, les conséquences se trouvent parfois dans telle ou telle façon de tourner un cours, la vision d'une idée. Il me semble que tout de même, si on prend techniquement les programmes scolaires, ils ont intégré depuis déjà longtemps, alors on peut juger que c'est pas assez, mais ils ont intégré une histoire qui dépasse largement la simple histoire de la France. Et c'est plutôt très bien de donner à voir aux élèves, par exemple, l'histoire de la Chine des Han ou l'histoire d'empires africains. Bien sûr, en revanche, ce que l'on constate quand on voit arriver des étudiants à l'université, c'est qu'ils n'ont pas la moindre idée de qui pouvait être Charles VII. Louis XI, n'en parlons pas, ça a disparu totalement. Voilà, ça, ils ne le savent pas. Or, il me semble qu'on ne peut pas espérer faire comprendre à des enfants ce qu'est le pays dans lequel ils vivent. Donc, on ne peut pas espérer qu'ils vont ensuite se sentir un avenir dans ce pays, avoir envie de le construire, s'ils ne savent absolument pas où ils sont. Et c'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Alors, pourquoi cela? Je pense qu'il y a en fait, se joue dans ces années 80 puis 90, on va dire, un croisement de différentes problématiques qui permettent d'expliquer où nous en sommes aujourd'hui. L'effondrement du politique dont vous parliez, bien sûr, mais cet effondrement du politique se décline ensuite de différentes manières et il vient... j'allais dire se cogner avec le triomphe de l'individualisme, c'est-à-dire justement cette déconstruction de toute appartenance commune que l'on voit aujourd'hui triompher ne serait-ce que dans l'attitude simplement des citoyens vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de ce qu'est une institution, ou plutôt le fait qu'aujourd'hui, plus personne n'est capable de comprendre ce qu'est une institution et le fait que les droits individuels doivent à un moment donné être limité par une idée du bien commun. C'est quelque chose qui est devenu absolument impensable dans une société qui a atteint, on va dire, la fin du processus de développement du libéralisme. Parmi ces phénomènes, on peut aussi identifier la globalisation, c'est-à-dire le fait que justement ce libéralisme se construit autour d'une uniformisation des modes de vie, d'une uniformisation culturelle, qui provoque d'ailleurs des contre-coups, et qui tend à imposer à un pays comme la France des normes, des modes de pensée, un rapport à l'histoire, un rapport au collectif, qui ne sont absolument pas dans son histoire. Et on y va à travers notamment l'imposition des normes, à travers l'imposition d'une école qui dans sa structure est en train d'être bouleversée à la demande de l'OCDE, de Bruxelles, sur un modèle qui est un modèle qui n'est pas celui de l'école républicaine. Tout cela a une influence ensuite directement dans la façon dont dans les classes les professeurs exercent leur métier. Que ce soit le TAFTA, que ce soit les règles édictées par Bruxelles sur l'éducation, tout le processus de Lisbonne, etc., tout ça a une conséquence directe. Alors, j'ajouterais que c'est aussi au tournant de ces années 80 que s'est imposé, au moment où justement ces enfants de l'immigration arrivaient dans les classes, s'est imposé une déstructuration des méthodes pédagogiques qui a abouti d'abord à une déperdition de l'enseignement de la langue. Et donc, on le voit aujourd'hui dans la baisse de maîtrise de la langue, on ne peut pas espérer d'abord émanciper des individus et ensuite en faire des citoyens si on ne leur enseigne pas la langue. Et nous avons un problème absolument dramatique là-dessus. Et le problème ne date pas de 50 ou 60 ans. Ce n'est pas la massification qui a provoqué ça, parce que la massification, elle était déjà existante dans l'école primaire. Et en effet, on avait des petits Bretons, des petits Basques qui arrivaient sans parler le français. L'école primaire, tant bien que mal, arrivait à enseigner cette langue. Tant bien que mal, bien entendu, aucun âge d'or là-dedans. Mais en tout cas, au moment où justement l'enjeu serait crucial, on modifie les méthodes et on détruit un enseignement, une pratique, un métier, quelque chose qui était essentiel. Dernier point, c'est dans ce bouleversement, l'imposition d'une immédiateté, d'une instantanéité qui se voit là aussi dans tous les programmes scolaires et dans la conception que nous avons de notre rapport au passé. Parce que c'est très frappant. Dans les programmes, notamment dans les programmes d'histoire, mais dans la façon d'aborder absolument tous les enseignements, une hypertrophie du XXe siècle, de l'histoire récente, qui provoque dans la culture commune des jeunes, mais des trous absolument majeurs dans l'histoire longue. Je disais que Louis XI a disparu totalement, Henri IV également, enfin c'est une vague notion, etc. Or, encore une fois, pour lutter contre ces phénomènes de globalisation, d'imposition, d'un libéralisme non pensé, d'un consumérisme, eh bien, il n'y a que le temps long, il n'y a que la maîtrise des très longs processus. Alors, je crois que l'école devrait fournir les anticorps et elle ne le fait plus.
Une question tout de même, avant que Laurence de Coq vous réponde et qu'on élargisse, pour le coup, non pas les mémoires, mais la discussion à notre public, qui doit avoir beaucoup de questions à vous poser, après vos exposés et vos prises de position. Une question quand même, Natacha. Est-ce qu'on n'est pas, depuis quelques années, en train de sortir de ce paradigme intellectuel que vous décrivez, celui de l'individualisme libéral, désaffilié, hein, désoriginé ? Est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de revenir de plus en plus à l'exigence d'un partage du monde commun au sein de références républicaines ? D'ailleurs, on le sait très bien, les succès d'édition récents depuis 2013 ou 2014, ce sont plutôt des livres qui appellent dans ce sens-là, notamment L'identité malheureuse de Finkielkraut, hein, qui a lancé toute une mode de livres de ce style. Est-ce qu'on est encore sous la domination de ce paradigme libéral désaffilié que vous pointez ?
disons que les choses sont plus compliquées que ça. C'est pas parce qu'il y a des succès de librairie que l'ensemble de la société évolue et que la façon, concrètement, les enseignements évoluent. Non, pas du tout. En revanche, je pense que nous voyons aujourd'hui la queue de comète de toute une idéologie qu'on peut appeler multiculturaliste, c'est-à-dire cette idée qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, qui consiste à penser que la diversité doit être prise en compte par l'absence justement du commun. Nous sommes dans quelque chose d'extrêmement complexe, je le disais, une forme de dialectique. La nation française s'est construite à la fois sur du divers et de l'un. C'est-à-dire c'est l'aller-retour permanent entre cette diversité, parce que la France est un pays éminemment divers, dans ses cultures, dans sa géographie, etc. Et en même temps, cette capacité à construire de l'unité à partir de cette diversité. Or, le multiculturalisme n'implique pas ça. Le multiculturalisme implique des individus porteurs de leurs différentes strates d'identité, mais posés les uns à côté des autres. Et il y manque la capacité ensuite à construire de l'unité à partir de cela. Et il me semble que c'est cela, justement, le rôle de l'école, parce que une société apaisée, multiethnique, ne peut se concevoir que si justement on arrive à petit à petit fonder une culture commune.
Merci. Or,
voilà, le multiculturalisme, c'est l'inverse de ça.
Merci beaucoup, Natacha Polony. Laurence de Kock, pour les conclusions, Flaubert disait la bêtise, c'est de conclure, on ne conclut pas tout à fait. Et après, on passe la parole à nos amis.
Alors, je vais juste reprendre 3-4 points qui ont été soulevés par tout ce qui vient d'être dit. D'abord, sur la question de cette rupture de méthode pédagogique, je ne sais plus comment vous l'avez qualifiée, enfin, cette manière d'avoir remplacé une pédagogie traditionnelle par peut-être une pédagogie plus active, ou si c'est ça que vous entendiez à partir des années 80 ? D'avoir dévoyé la méthode traditionnelle.
Non, c'est pas dévoyé. Ça s'appelle les mathématiques modernes. Ça s'appelle une modification des programmes scolaires dans le sens d'une forme de constructivisme appuyé, d'accord, en effet, sur le.
Oui,
le fait
voilà.
Que
je l'ai formulé.
On pourrait décliner techniquement tout ça.
Voilà.
Mais...
Une des choses, simplement pour préciser, mais on s'éloigne un petit peu du sujet, mais dans les différentes enquêtes qui ont été faites sur la reproduction des inégalités sociales, notamment. L'un des facteurs, c'était aussi le fait que les programmes étaient considérés et les pratiques étaient considérées comme favorisant aussi cette reproduction des inégalités. C'est-à-dire que la formulation, c'est Bourdieu, hein, donc c'est relativement ancien, la formulation des programmes, ben oui, mais bon, moi je l'aime bien, la formulation
je
des programmes...
Je sais, c'est tout le débat entre nous.
Et aussi ce magistère moral exercé par l'enseignant et ce cours magistral, ce face-à-face frontal, etc., avait en réalité des effets qui n'étaient pas du tout les effets attendus par les enseignants. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place des pédagogies qui étaient censées remédier, alors avec certains excellents
oui, mais pardon, le résultat, c'est que nous avons une école de plus en plus inégalitaire. Pardon.
Elle n'est pas de plus en plus, hein, elle l'est
si,
encore.
Si,
non,
les
pas de
études
plus
PISA le montrent.
Oui, mais PISA n'existait pas dans les années 60.
Non, non, mais pardon, sur les 10 dernières années, PISA montre une dégringolade, et surtout...
Oui, mais les maths modernes, c'est les années 70.
Oui, je sais, il y a différentes données... qui permettent, bah oui, excusez-moi, il y a différentes données qui permettent de voir, par exemple, l'accession aux grandes écoles suivant les milieux sociaux, qui sont absolument édifiantes.
C'est-à-dire
oui, c'est
que édifiant, mais ça ne s'est pas aggravé, c'est resté extrêmement grave.
Non,
mais
non,
on est d'accord que c'est
non,
grave.
Non, ça s'est aggravé. Ne serait-ce que dans les,
personnellement,
grandes,
non,
pardon,
mais...
dans les grandes écoles, l'accès des classes défavorisées aux grandes écoles. En 1960, vous avez 14% d'enfants de milieux défavorisés dans les trois principales grandes écoles, Normale Sup, Polytechnique, l'ENA. Aujourd'hui, c'est moins de 5-6%.
On la laisse développer, Natacha Polony.
Autre chose aussi, mais je vais encore vous fâcher, hein, mais sur la question des grands personnages qui ont disparu, Charles VII, Louis XI, etc. Bon, personnellement, moi, je crois que je n'ai pas connu Charles VII avant peut-être l'âge de 21-22 ans. Bon, ça ne m'a pas empêché d'avoir une vie tout à fait correcte et d'avoir des
vous
études,
dites, ça m'a pas manqué.
Et d'avoir des études tout à fait réussies. Ce que je veux dire, je rigole un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, on a des micro-trottoirs dans les années 50, 60, parce que les micro-trottoirs, ça ne veut évidemment rien dire. On a des enquêtes, voilà, alors on dit aux enfants, alors, est-ce que tu connais ci, ça, ça, et puis ils se plantent tous. Là, encore une fois, il n'y a pas non plus de dégradation. Il y a effectivement une situation qui reste, on va dire, à certains endroits, un petit peu préoccupante. Mais je pense qu'il faut sortir un petit peu aussi de ce catastrophisme. L'exemple que vous avez pris, je reviens à un autre sujet quand même, parce qu'il est intéressant, l'exemple sur les programmes scolaires que vous avez pris, en disant les programmes scolaires s'ouvrent au monde, et vous avez parlé de la Chine des Han et des royaumes africains. C'est précisément, à mon avis, le problème. Parce que vous avez pris deux, c'est vous, enfin c'est les programmes, hein, c'est pas vous, mais vous avez pris deux sujets qui précisément, au lieu de montrer des tissages ou des phénomènes de circulation et des mobilités de population et donc de fabriquer du commun entre ces régions-là et nous, au contraire, ce sont des régions qui montrent une altérité radicale. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer du commun, on montre au contraire à quel point tout cela est très différent. Donc on n'est pas du tout dans une perspective d'histoire de l'immigration, on est dans une perspective d'histoire de projection, on va dire, de régions qui sont des régions exotisées d'ailleurs, hein, et qui sont des régions qui confortent au contraire dans une identité nationale au lieu d'ouvrir à une mobilité qui pourrait être considérée comme naturelle. Donc je crois que ces deux exemples-là, vous avez raison, je ne suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, je pense qu'en effet, il faudrait les supprimer et les remplacer par autre chose. Mais ça ne suffirait pas de les remplacer par les programmes d'histoire. Vous avez dit l'école ne fait pas tout, mais les programmes d'histoire ne font pas tout non plus. L'école, vous avez raison, c'est les maths, c'est le français, c'est l'enseignement des langues, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est l'éducation civique, c'est tout un tas de disciplines, vous le savez parfaitement bien. Et donc si on veut rendre évidente cette idée que la France se constitue d'un apport, Berck parlait de culture d'apport, voilà. Si on veut rendre évidente l'idée que la France se constitue et se modifie inexorablement, quel que soit le nombre de débats qu'on peut avoir pour s'y opposer, la population, la société, la culture française se modifiera du fait des apports de populations qui viennent d'ailleurs. Et on peut s'en réjouir. Et c'est ça qu'il faut enseigner. Mais il faut l'enseigner partout. Ça veut dire que dans les manuels scolaires, lorsqu'on a un programme de maths, le petit peut s'appeler Mohamed au lieu de s'appeler Pierre, par exemple. Voilà. Et ça n'existe pas. Et si vous voulez que des enfants se sentent un destin commun, je ne parle même pas d'identité nationale ou d'appartenir à un pays, je parle de projet. Justement, je reprends l'image de Hannah Arendt. Hein, se projeter dans un commun, qu'il soit en France, dans les frontières françaises ou ailleurs. Alors, à ce moment-là, il faut que leur présence soit légitimée et qu'elle soit légitimée par un certain nombre de canaux, dont l'école. Il faut que leur prénom soit visible partout. Il faut que leur couleur de peau soit visible partout. Il faut que leur mère et leur père soient visibles aussi partout. Pas simplement dans les programmes d'histoire et pas dans un petit chapitre qu'on va consacrer à l'histoire.
Pardon,
de
mais
en tout cas, on arrive au cœur de votre irresponsabilité.
C'est pas de mettre Mohamed comme prénom dans un problème de maths qui va changer quoi que ce soit. Il me semble qu'en revanche, faire en sorte que tous ces enfants se sentent propriétaires de l'héritage de Victor Hugo, de Racine, ça leur donnera l'idée qu'ils sont ici, chez eux.
Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux, pour ces développements passionnants. Discutable, bien sûr. Il va y avoir, je pense, beaucoup de questions qui vont vous être posées. Merci aussi, bien sûr, à Benjamin, mon sparring partner, maintenant, dans ces rendez-vous mensuels. On va tout de suite faire passer la parole dans les travées. Et de toute façon, il y a des sujets, ne vous faites pas d'illusions, chers amis, sur lesquels vous ne les réconcilierez pas.
Moi, je suis enseignante en lycée en histoire-géographie. Et vous parlez, Natacha Polony, de conserver le monde. Mais moi, mes élèves, ils ne veulent pas le conserver. Ils veulent faire changer. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Merci beaucoup.
En fait, ma question, en vous écoutant, porte sur la mixité sociale. Je sais que pour certains, c'est devenu un gros mot, mais quand j'entends école et immigration, l'une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est la question de la mixité sociale. Comment réintroduire la mixité sociale ? Puisque, est-ce que ce n'est pas là la clé avant de l'enseignement et tout ça, c'est déjà la connaissance de l'autre. Voilà.
Tant qu'il n'y aura pas une vraie politique sociale digne de ce nom, qui redonne envie aux gens ou qui donne envie aux gens d'aller s'installer à côté de gens qui sont différents d'eux, c'est sûr qu'on pourra toujours parler immigration. On ne luttera absolument pas contre la ghettoisation.
Merci beaucoup, Laurence de Coq, Natacha Polony.
L'école, en effet, est tributaire des absurdités de l'urbanisme qui s'est imposé à partir des années 60-70. Parfois avec une forme d'ailleurs d'inconscience totale des élus locaux qui regroupaient les différentes vagues d'immigration géographiquement par immeuble, ce qui est là aussi la pire stupidité qu'on puisse concevoir. Et puis, surtout, pour justement remettre de la mixité sociale dans l'école, bien sûr qu'il y a un travail Alors, non seulement d'urbanisme, mais j'allais dire un travail écologique, un travail pour repenser totalement la ville, le lien entre les lieux de vie, les lieux d'emploi, les lieux de travail. Donc tout ça est extrêmement complexe et doit être pensé en même temps. Pour autant, dans les écoles, la mixité sociale pourrait être amplifiée si on ne confondait pas systématiquement mixité sociale et mixité de niveau scolaire. Je m'explique. Je pense qu'il y a dans des quartiers où on trouve des populations à la fois de classe moyenne et de classe défavorisée, une fuite absolue des classes moyennes qui détruit toute possibilité de mixité sociale dans les établissements. Cette fuite, elle ne vient pas seulement de stratégies individuelles de classes moyennes qui veulent, qui sont dans la concurrence, ou plutôt, enfin, il ne faut pas rêver, on ne va pas interdire aux gens d'enlever leurs enfants d'une école, ou en tout cas, c'est très compliqué dans l'état actuel du système. Et puis surtout, la fuite vers le privé nous montre les échecs du public et du système que nous avons mis en place. C'est donc en travaillant sur l'amélioration du public, en travaillant sur la façon de préserver un niveau scolaire qui soit pour tous les enfants, quel que soit leur milieu social, qu'on va rassurer ces classes moyennes et éviter la fuite vers le privé. Mais on ne réussira pas, malheureusement, à demander aux gens de sacrifier leur enfant sur l'autel de la République. C'est bien dommage, c'est-à-dire qu'il faut absolument, ce chantier-là est absolument crucial. Ensuite, pour répondre à la question de conserver le monde ou le changer, évidemment, mais j'espère bien que les jeunes ont envie de changer le monde. J'espère bien qu'ils ne se satisfont pas du monde tel qu'il est. En revanche, l'institution, pour leur donner les armes pour changer le monde, doit leur transmettre ce qu'est ce monde et donc leur transmettre ce qui les a précédés. Or, nous sommes au contraire dans une société qui pousse à ne pas comprendre ce qui a été et qui nous pousse tous en tant qu'individus à vivre dans une immédiateté permanente, donc dans l'incapacité de nous inscrire dans un temps long et donc de construire. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose. Je pense que on peut ironiser sur le fait qu'on s'en sort très bien sans connaître Charles VII. Oui, c'est vrai, bien sûr. Bien sûr, c'est d'ailleurs d'autant plus facile qu'en effet, nous ne venons pas d'un milieu défavorisé nous ne souffrirons pas, nous, de ne pas connaître tel ou tel point de l'histoire parce qu'on se rattrape toujours. En revanche, je pense que l'état de l'école aujourd'hui et l'état en particulier l'inégalité que nous construisons dans cette société ne me semble pas justement devoir souffrir l'ironie. C'est-à-dire qu'il y a un scandale absolu. Moi, je ne me satisfais pas des résultats de notre école aujourd'hui. Voilà. Je ne peux pas faire comme si ce n'était pas grave. De même que je ne me satisfais pas de cette idée que, il n'y aurait que certains lycées où ça n'irait pas, certains collèges où ça n'irait pas. Moi, l'idée qu'il y ait des endroits en France où des enfants ne se sentent tellement pas français, qu'ils sont dans un rejet absolu. L'idée qu'on puisse que sale juif soit devenue une insulte tout à fait banale dans le langage, non, je ne peux pas m'en satisfaire. Non, et je pense que c'est extrêmement grave. Voilà.
Merci beaucoup. Juste un mot, un tweet.
Hein. Juste un mot, un petit tweet. Évidemment, il n'est pas question d'ironiser sur Charles VII pour minimiser l'existence du racisme, l'existence des discriminations, l'existence de la ségrégation et l'existence de l'échec scolaire, hein, bien entendu. Simplement, je ne pense pas que le fait de connaître Charles VII va nous aider beaucoup à avancer sur ces terrains-là. C'est tout ce que je voulais dire. Et je crois qu'il faut abandonner cette idée de considérer que la connaissance de l'histoire des grands hommes et que l'identification à des grands hommes, et plus à des grands hommes qu'à des grandes de femmes d'ailleurs, curieusement, que ça pourra changer l'efficacité de l'école.
Mais il s'agit pas de dire qu'on va s'identifier à Charles VII, enfin, j'ai pas dit ça.
Ben, si, Si, mais par ailleurs, c'est pas simplement de l'ironie. C'est que quand je dis que les enquêtes précédentes ont montré exactement les mêmes défaillances, je mets aussi en avant l'existence d'un certain nombre de travaux sur l'histoire de l'école et sur la sociologie de l'école qui ne sont pas connus et qui font que l'école est aujourd'hui le seul terrain sur lequel tout le monde a son mot à dire.
Sur lequel
on n'avance pas parce qu'on n'avance qu'à coup de
ponts. Cher Laurence de Coq, je suis désolée. Je ne peux pas vous laisser dire. Qu'en gros, vous auriez la science et vous connaîtriez, et que je ne connaîtrais pas. Non, je suis désolée. Si, c'est exactement ça. Je connais les études sur lesquelles vous vous appuyez, et j'en conteste certaines, parce que je sais à quel point on peut faire dire énormément de choses aux études, notamment sur la question scolaire. Je l'ai vu en particulier pendant des années sur cette fameuse question du niveau qui montait ou qui baissait, ce qui est une aberration. Enfin, pardon, mais il y a des données qui sont concrètes, on peut en débattre, mais il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui
disent n'importe quoi. On les réinvite pour ça. Alors, on reprend un tour de questions.
Fadi Maki, je suis enseignant de professeur de PS en collège. Je suis aussi enfant de la deuxième génération, de parents réfugiés politiques venus du Liban. J'ai vécu ma scolarité de manière très très violente. Je suis pourtant devenu enseignant. Et c'est après ma scolarité que j'ai appris à être français, en fait. Et j'ai appris à être français parce que pour une fois après ma scolarité, c'est à l'université que certains enseignants ou certaines personnes que j'ai rencontrées m'ont permis de me réapproprier ma vision de l'histoire de l'immigration dont vous parliez et de l'utiliser comme objet et de la mettre sur le terrain de la négociation avec l'histoire française. Il y a des choses dans le récit national, dans le roman national dont vous parlez, sur lesquelles je n'étais pas d'accord et sur lesquelles je peux toujours ne pas être d'accord aujourd'hui, mais tant que je n'avais pas pu renégocier ce récit national, j'étais encore en violence par rapport à ce récit national. Donc aujourd'hui, en tant qu'enseignant, moi, je ne vois pas d'autre manière de faire, et avec ce qui s'est passé l'année écoulée, ce que j'ai vu dans mon collège, la seule manière que je voyais de faire en sorte que les élèves puissent se sentir français et arrêter d'être dans une opposition permanente à l'institution, c'était qu'on puisse ensemble, et avec la rigueur d'enseignants que nous